La foi est nos 8. La foi, révélation, Esther donnée souverainement. Le 7 juin 017. Brian Kozurek. Pasteur. Tenons-nous debout et lisons dans Luc 18, 8 je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prions. Ce soir nous verrons la foi de Jésus-Christ que frère Branham nous a enseigné dans son sermon l'enlèvement. Que la foi Esther une révélation. Ainsi, ce que nous voyons alors, c'est Esther la révélation de Jésus-Christ et ce soir, nous concentrerons nos pensées sur la façon dont cette révélation de Jésus-Christ Esther souverainement donnée par Dieu. Au paragraphe 50 du sermon de frère Branham, qui est Esther sous Melchizedek, frère Branham nous explique la souveraineté de Dieu en produisant la révélation de lui-même. Qui est Esther c'est Melchizedek? 65-0-21-50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Et bien sûr, nous voyons que sa déclaration Esther tirée d'Éphésiens 1, 3 béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5 Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et tout ce que vous êtes, c'est Esther l'expression parole. Après l'avoir pensé, il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est Esther pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas, car il est Esther celui qui donne la vie éternelle. Or, remarquez ce qu'il nous dit ici, c'est Esther que Dieu Esther souverain en ce qui concerne, qui reçoit la vie éternelle. Après tout, il est Esther la fontaine de la vie éternelle. 51 Vous vous souvenez? Comme nous avons lu dans l'Écriture, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui. Dieu Esther souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu Esther souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même Esther souveraine. Même la révélation Esther souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même Esther souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, Néhémie sachant pas ce qu'ils font. Dieu Esther souverain dans ses œuvres. Or, frère Branham fait une déclaration très importante ici quand il nous dit que même la manière dont Dieu se révèle et à qui il se révèle, Esther souverainement donnée. Il dit, même la révélation Esther souveraine. Il révèle à qui il révèle. La révélation elle-même Esther souveraine en Dieu. Maintenant, nous croyons que frère Branham Esther un prophète parole pour cet âge. Ainsi examinons cela par nous-mêmes dans la Bible. Luc 10h21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne Néhémie connaît qui est Esther le Fils, si ce n'est Esther le Père, ni qui est Esther le Père, si ce n'est Esther le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. 24 Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et Néhémie l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et Néhémie l'ont pas entendu. Maintenant, remarquez les paroles de Jésus alors qu'il adressait sa prière au Père. Il y a trois choses très distinctes que Jésus dit dans cette prière, qui seront nos arguments quant à ce que William Branham enseigne ici. Numéro 1, Jésus dit, « Tu as caché ces choses aux. » Puis il nomme deux groupes de personnes spécifiques à qui Dieu, son Père a caché ces choses, à savoir, les sages et les intelligents. Numéro 2, Jésus dit, « Et de ce que tu les as révélés à. » Puis il nomme spécifiquement un groupe de personnes qui sont autorisées à recevoir ces choses qui ont été cachées à l'autre groupe. Ce groupe Esther, ce qu'il appelle des enfants, plus spécifiquement ses enfants, et clarifie quel type d'enfant en disant, encore dans Matthieu 11h25 en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » 26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne n'aime y connaît le Fils, si ce n'est citer le Père. Personne non plus n'aime y connaît le Père, si ce n'est citer le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Remarquez que dans les deux références aux Écritures, Jésus parle de deux types de personnes à qui Dieu a caché ces choses, à savoir le sage et l'intelligent. Le premier groupe sont ceux qu'il appelle les sages qui vient du mot grec, sopho, et sont généralement connus sous le nom sage. Il signifie plus spécifiquement ceux qui sont habiles, expérimentés ou experts en matière des lettres, ceux qui sont cultivés, et qu'on appelle les savants, les érudits, comme les philosophes et les orateurs grecs, ou les théologiens juifs. La raison en est que ces hommes ayant été enseignés et cultivés dans leur pensée, en sont arrivés au point où leur modèle de pensée est tel qu'il leur est littéralement impossible de changer leur manière de penser. Ce sont des hommes qui ont formé leurs esprits à penser d'une certaine façon, et ils n'y peuvent rien accepter en dehors de la manière dont ils ont été enseignés. Sister, pourquoi vous entendez-elle mon frère Branham parler contre les hommes qui se sont évertués à obtenir leur doctorat en médecine et en droit? Sister, pourquoi vous voyez la profession médicale être remplie de personnes qui sont tellement obtus qu'ils qualifieraient n'importe quelle percée médicale de vaudou? Je sais de première main, ayant entendu ces mots exacts d'un membre du conseil d'administration d'une organisation médicale avec laquelle je travaillais. Après qu'on ait présenté au conseil un dispositif médical qui se met sur le doigt pour déterminer la biométrie d'un patient. On utilise ce dispositif aujourd'hui à travers tous les États-Unis, mais jadis, un médecin était convaincu que c'était de la magie vaudou, simplement parce qu'il n'a jamais appris cette technologie à l'école. L'autre groupe auquel Dieu cache ses paroles sont ceux que Jésus appelait les intelligents. Ce sont les suntos ou les intelligents, les prétendus intelligents, les hautement qualifiés et les hautement instruits. Ces hommes qui ont formé leurs esprits à une certaine compréhension, et par conséquent, ils s'appellent les sages et les prétendus instruits, les prétendus experts. Mais si leur expertise est fondée sur la mauvaise manière de penser, à quoi bon leur prétendue expertise? Et nos hôpitaux et universités et d'autres établissements d'études, tels que les séminaires, sont remplis de ce genre de fausses manières de penser. I Corinthiens 1h18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi Esther écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20 Où Esther le sage? Où Esther le scribe? Où Esther le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21 car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, 23 nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 car la folie de Dieu Esther plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu Esther plus forte que les hommes. 26 considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'aiment son point, pour réduire à néant celles qui sont. 29 afin que nul cher n'aiment se glorifie devant Dieu. 30 or, c'est Esther par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 31 afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous savez, les gens se glorifient de leur éducation et de leur statut dans les cercles sociaux, mais laissez-moi vous dire un fait. L'éducation Néhémie peut pas sauver votre âme. La position sociale Néhémie peut pas vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que vous connaissez dans la vie qui vous gagnera quelque chose, c'est qui vous connaissez. Et ce n'est pas différent avec Dieu. Connaissez-le, et cela changera votre vie, non seulement dans ce monde, mais aussi dans les âges à venir. Corinthiens 2, 1 pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 2 car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 3 moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement. 4 et ma parole et ma prédication Néhémie reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5 afin que, dans le but même que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 6 cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. 7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Écoutez, vous savez ce que les personnes les plus hautement instruites du monde Néhémie savent pas. Vous avez des informations dont toutes les agences de renseignement de ce monde n'ont pas idée. Vous savez ce que les dignitaires Néhémie comprennent pas. Et Paul nous dit que la preuve qu'ils n'ont pas reçu cette compréhension se montre dans leurs actions. Car, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et les élites instruites et sociales, et les élites religieuses et médicales le crucifiant toujours et encore, et l'exposent à l'ignominie aujourd'hui, par le fait qu'ils ont ouvert tout le monde occidental à cette religion démoniaque appelée l'islam, et ont toléré le prise de pouvoir et la dominance de l'islam dans le monde occidental. La vie éternelle et le christianisme Néhémie sont pas une vie tolérante ou Néhémie consiste pas à mener une vie tolérante. Il rejette entièrement Satan et ses ouvriers d'iniquité. Jésus n'était pas une personne tolérante. Il a pris un fouet et est rentré dans le QG du peuple le plus religieux, les Juifs, et en les fouettant, il les a fait sortir du temple, leur hurlant dessus que la maison de son père Esther une maison de prière. Et ils en avaient fait un repère des brigands. mais les élites sociales, politiques, les élites éducatives et médicales ont vendu leur droit d'aînesse pour un plat de potage, et chacun d'eux finira en enfer pour avoir choisi la voie de la mort, et lieu de la révélation de Jésus-Christ caché par Dieu. On nous dit dans Proverbe 14h12 et Proverbe 16h25 telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Maintenant, en revenant dans 1 Corinthiens 2, 9, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'émis sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et comme Dieu l'a caché au groupe instruit, et à ceux qui grimpent les échelons sociaux, et au peuple religieux instruit, et aux élites de toutes les entités humaines, par conséquent, ils n'émissent rien de ce qui est réservé à ceux qui aiment Dieu. Mais remarquez ce que Paul dit après. Dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu, sont tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal némi reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il némi peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu pour juger, discerner les choses de Dieu. 15 L'homme spirituel, celui qui est rempli l'Esprit de Dieu, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Deuxièmement, nous devons nous poser la question de savoir quelles étaient ces choses qui ont été cachées aux sages et aux intelligents. Il apparaîtrait par la lecture de Matthieu 11 que les choses dont Jésus a parlé sont la présence et la manifestation surnaturelle de Dieu, qui se sont manifestées dans son ministère. Nous voyons Jésus nous dire dans Matthieu 11h20 alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'y s'étaient pas repenties. 21 Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. Mais par une lecture attentive de Matthieu 11, nous voyons que ce n'étaient pas les œuvres puissantes mais la signification cachée derrière ces œuvres, à savoir, que Dieu était là en scène confirmant le message, et en le reconnaissant, ils en viendraient automatiquement à la repentance. Et comme le prêtre catholique a dit en faisant allusion aux événements surnaturels qui se sont produits à Fatima. Il a dit, quand Dieu fait quelque chose dans le surnaturel, en attirant le regard des gens et donc leur attention, ça ne signifie pas que Dieu le fait pour se montrer en spectacle, mais c'est plutôt pour que les gens se taisent et écoutent. Mais cependant, nous avons tellement beaucoup de personnes qui prétendent même croire que Dieu a envoyé un prophète, qui manquent de reconnaître que William Branham n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu a fait en 7 heures sauf d'en être son témoin, et peut-être qu'il était assez sage et assez humble pour s'écarter du chemin en sorte que Dieu puisse utiliser son corps pour démontrer sa présence. Frère Branham a affiché au-dessus du sanctuaire du tabernacle en gras des grandes lettres qui disaient « Tenez-vous tranquille, et sachez que je suis Dieu. » Mais une lecture plus attentive de ce passage nous donne un meilleur aperçu de ce que ce panneau voulait vraiment dire. Psaume 46, 10 d'Arbi, tenez-vous tranquille, et sachez que je suis Dieu. Pourquoi? Parce que, je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. 11 L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une autre traite. En d'autres termes, si vous mourrez à vous-même et devenez très tranquille, alors vous saurez ce que Dieu fait en cette dernière heure. Par conséquent, ce n'est pas l'intention de Dieu de faire des choses juste pour nous amuser, mais il fait des choses pour attirer votre attention afin que vous puissiez savoir. Par conséquent, il est très impératif que nous écoutions attentivement ce que Dieu a pour nous, afin que nous n'y puissions pas continuer dans notre erreur, mais que nous puissions avoir une compréhension. Il a dit, si Sodome et Gomorre avaient vu ce que vous avez vu, ils auraient su quoi en faire, et ils se seraient repentis. Mais les gens maintenant, tout comme jadis, ont du mal à qui à entendre et à voir que ces choses pourraient se produire devant vous. Ils n'y comprendront jamais de quoi il est question. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 13 que Dieu cache expressément la révélation à tous ceux qui n'y sont pas destinés à connaître et à comprendre. Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Maintenant remarquez, ils lui ont demandé, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc cela parle d'un autre groupe de personnes, pas ceux qui font partie de son petit groupe, pas ceux qui sont dans sa présence, mais il parle des autres qui ont aussi entendu les choses que Jésus a dites. Maintenant, contrastons cela avec la même scène telle que témoignée par Marc dans l'évangile de Marc. Marc 4:10 Lorsqu'il fut en particulier, remarquez ici qu'il n'a pas laissé échapper cela en public, mais il faisait très attention de n'en parler qu'à ceux qui étaient destinés à entendre cette compréhension. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. Remarquez encore les paroles de Jésus, je parle à vous d'une certaine manière, mais à ceux qui sont du dehors, je parle d'une manière qui cache expressément ce que j'essaie de vous faire comprendre. Verset 11 Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela n'y leur a pas été donné. En d'autres termes, cela vous est donné comme un présent de savoir, mais aux autres, cela n'y leur a pas été donné comme présent de savoir. Le mot donné qu'il a utilisé ici a été traduit du mot grec didomi et il signifie donner ou accorder. De son plein gré, quelque chose à quelqu'un. À son avantage, accorder un cadeau. Remarquez alors que la chose que Jésus leur dit ici, c'est que ces choses qu'il leur dit est à leur avantage. C'est pour leur avantage à eux, mais ce n'est pas à l'avantage de ceux du dehors. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera, même ce qu'il a. Maintenant le mot ici est tiré du mot grec écho et il signifie non seulement détenir et posséder. Et puisqu'il vient du mot même écho qu'on a emprunté au grec, alors cela signifie aussi un reflet, une réflexion ou le fait de redonner de la même manière que l'original a été donné. Par conséquent, nous voyons le principe que Dieu donne à ceux qu'il a fait de façon à pouvoir redonner, ou refléter, ou réoffrir ce que Dieu leur a donné. Et ceux qui n'aiment peuvent pas faire l'écho et ceux qui n'aiment sont pas faits de façon à pouvoir offrir à Dieu ce que Dieu a donné. Et même ces choses qu'ils pensent avoir, il le leur reprendra. 12 Car on donnera à celui qui fait l'écho, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'aiment fait pas l'écho, on ôtera même ce qu'il a. Et qu'est-ce ce que Jésus voulait dire en disant qu'ils n'aiment peuvent pas faire l'écho? Ils parlent de leur compréhension et leur capacité à comprendre et donc à appliquer ce qu'ils leur donnent. Et pourquoi dit-il qu'une Néhémie peuvent refléter ou faire l'écho ses promesses? Parce que ces promesses Néhémie leur sont pas destinées. Dieu Esther souverain en celui qui recevra ses promesses. Marc 4:12 afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et Néhémie comprennent point, de peur qu'une Néhémie se convertisse, et que les péchés Néhémie leur soient pardonnés. Par conséquent, il Néhémie laisse pas de doute quant à ce pourquoi il révèle à certains et cache à d'autres la révélation de Jésus-Christ. Elle n'espère pas pour eux. Remarquez alors que nous relisons dans Matthieu 13:11 Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela Néhémie leur a pas été donné. 12 car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 Esther pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ils Néhémie voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni Néhémie comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous Néhémie comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous Néhémie verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple Esther est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'une Néhémie voie de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils Néhémie comprennent de leur cœur, qu'ils Néhémie se convertissent. Se convertir signifie être rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, affermis tes frères. » 15 Car le cœur de ce peuple Esther est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'une Néhémie voie de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils Néhémie comprennent de leur cœur, qu'ils Néhémie se convertissent, et que je Néhémie les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Voilà pourquoi frère Branham a dit dans le signe 63-0901M136 peu m'importe, vous pouvez avoir chassé les démons, vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi, vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce signe n'estère pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant. Vous pouvez vous tenir en chair et prêcher l'évangile. Plusieurs viendront à moi ce jour-là, en disant, « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom, prêché par ton nom? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom ?» Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Jésus a dit, « Retirez-vous de moi. » Vous qui commettez l'iniquité. Je Néhémie vous ai jamais connu. 137 Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Esther est la condition de Dieu requise pour cette heure. Le message du temps du soir Esther d'appliquer le signe. 138 Satan a semé toutes sortes de contrefaçons, des poignées de main, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça. Esther maintenant l'heure du signe lui-même, non pas quelques contrefaçons, quelques faux-semblants, quelques substituts. 139 Esther maintenant l'heure où le signe lui-même Esther en train de s'identifier au milieu de nous, et de prouver qu'il Esther le même Jésus, hier, aujourd'hui et pour toujours, et il Esther tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Que penser d'un homme qui prétend avoir ce signe et qui nie cette parole? Vous Néhémie pouvez pas le faire. Le signe doit être là. Quand je le sang vous servira de signe. Maintenant, le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, vous sert de signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le Saint-Esprit Esther le signe. L'affaire Esther classée.
Oui, monsieur.
Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous remarquiez que frère Branham fait une distinction entre le signe et un signe. Le signe Esther, le Saint-Esprit lui-même, s'identifiant parmi nous, éprouvant ou confirmant qu'il est Esther le même et qu'il n'est mais change pas. Mais il parle aussi d'un signe qu'il appelle la vie qui était dans le sang, mais qui est Esther maintenant dans le croyant. Mais qu'Esther ce qui doit être montré, la Esther la question. Et voici la réponse, vous Néhémie pouvez pas montrer le signe parce que lui seul peut se montrer. Mais ce que vous devez montrer, c'est Esther la preuve que la vie même, qui était dans le sang Esther entrée en vous. Et cela serait démontré dans votre vie par votre réponse à la présence personnelle du signe lui-même au milieu de vous. Remarquez, la méthode par laquelle frère Branham divise correctement la pensée ici d'un signe et du signe. Il utilise l'article du Dieu pour faire allusion à la personne du Saint-Esprit lui-même, et il utilise l'article 1 pour faire allusion aux attributs de la vie de Dieu dans le croyant. Nous retrouvons ce même article utilisé aussi dans les Écritures en faisant allusion à la différence entre le Saint-Esprit en contraste à ses attributs de la vie, qui sont donnés aux croyants. Jean 3, 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Remarquez la manière dont ce passage est écrit. L'esprit parle de Dieu qui est esprit et vie et remarquez qu'il est précédé de l'article le et un E majuscule, désignant la personne du Saint-Esprit. Remarquez les deux derniers mots, Esther esprit. Cela parle du pneuma ou la vie de Dieu qui est en vous par la nouvelle naissance, mais cela n'est mis, par le pas de Dieu lui-même, et ce n'est pas un E majuscule mais plutôt un petit E. Et nous savons que frère Branham a précisé que quand le mot ange Esther orthographié avec un A majuscule, cela fait allusion aux anges célestes, et quand Esther en petit A cela fait allusion aux hommes qui sont des messagers. Questions et réponses sur Hébreux 3, 57-1006, 788. Quand il Esther question, d'ange céleste, Esther un grand A, A majuscule. Quand Esther A minuscule, il s'agit d'ange homme. Frère Branham continue et dit, 140 peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, combien vous avez sautillé, à combien d'églises vous avez adhéré, combien de bonnes choses vous avez faites, cela ne vous sera d'aucun profit, si le signe n'Esther pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Cela fonctionnait bien du temps de Luther. Cela fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça n'est mis fonctionne pas maintenant. Non. 141 Le fait de garder l'agneau, c'était bien alors. Pour ceux qui sont morts avant que l'agneau n'ait mis soit appliqué, le sang, c'était une autre histoire.
Oui, monsieur.
Ils se sont allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon qu'il. 142 S'ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, pas. Voilà tout. C'est simplement l'affaire de Dieu. Il justifie qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, et il condamne qui il veut. Il est Dieu. Voilà tout. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et condamne qui il veut condamner. Maintenant, en revenant à Matthieu 13h13, Esther pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ils Néhémie voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni Néhémie comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous Néhémie comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous Néhémie verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple Esther est devenu insensible. Rappelez-vous que le cœur fait toujours allusion à leur compréhension. Et donc si leur cœur Esther est devenu insensible cela signifie que leur compréhension s'est endurcie ou s'est épaissie, ou s'ester cristallisé. Ils n'aimis peuvent apprendre rien d'autre que ce qu'ils n'aimis savent déjà. Comme les pousses de Lot qui s'ester aussi cristallisé et arrêté de marcher et n'aimis, pouvaient pas aller plus loin. Et quand vous cessez d'apprendre, vous devenez stupide et s'ester exactement ce que la définition grecque dit. 1. Rendre épais. Rendre gras. Engraisser. Métaphe. Rendre stupide, rendre l'homme médiocre ou dur. Jésus continue et dit, ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, ils les ont fermés. Par conséquent, cette ignorance est une ignorance volontaire. De peur qu'ils n'aient mis voie de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'aie mis les guérisse. 1.6 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et n'aimis l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'aimis l'ont pas entendu. Nous voyons aussi Marc témoigner des mêmes pensées dans l'évangile de Marc, mais de cette fois-ci avec une compréhension légèrement meilleure de la scène dans laquelle Jésus disait ces choses aux apôtres. 12 Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et n'aimis comprennent point, de peur qu'ils n'aimis se convertissent, et que les péchés n'aimis leur soient pardonnés. S'ester le temps de la Odyssée, le temps des droits du peuple. Cela a commencé par les droits des femmes, le mouvement de suffragette, puis les droits raciaux, et puis les droits des homosexuels, et les droits de l'électeur, et les droits des animaux, et maintenant les droits des LGBT. Où cela finira-t-il? Quand les hommes et les femmes s'extermineront en essayant de protéger leurs droits des autres. Et avec les mouvements des droits est venu le militantisme. Des hommes et des femmes qui combattent bec et ongles, pour s'assurer que leur bulletin de vote compte même s'ils sont trop stupides, pour suivre convenablement le mode d'emploi. Comme il en est dans le naturel, ainsi il en est dans le spirituel. Trop stupide pour suivre le mode d'emploi, trop stupide pour suivre celui qui est descendu pour nous conduire dans la gloire. 7 H chapitre 9 page 339, 347-3, vous êtes aveugle et nu. Là, il y a vraiment de quoi désespérer. Comment peut-on être aveugle et nu, et n'aimer pas le savoir? Pourtant, il est dit qu'ils sont aveugles et nus, et qu'ils n'aimer s'en rendent pas compte. La réponse, c'est qu'ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et Gehazi étaient encerclés par l'armée des Syriens? Rappelez-vous qu'Élisée les a frappés d'aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient les yeux grands ouverts, et ils voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier en ceci, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir certaines choses, mais qu'il y a d'autres choses qu'ils n'aimaient pas pouvaient pas voir, par exemple Élisée, son serviteur et le camp d'Israël. Ce que voyait cette armée Néhémie lui servait à rien. Ce qui Néhémie pouvait pas voir les armes du captif. Or, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais Néhémie voulait pas écouter. Et nous devons poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Parce que les politiciens sont trop stupides, ou il se fait qu'à cause de leur avidité à acheter les électeurs, Dieu a aveuglé leur capacité à comprendre qu'ils ont fait entrer le cheval de Troie qui les détruira. Je pense que nous donnons à l'élite trop de mérite pour un certain plan supérieur de détruire le monde occidental ou chrétien. Parce que l'élite elle-même n'est pas musulmane, ils sont des réprouvés rejetant Christ. Et je crois qu'il marche droit dans les malédictions de Deutéronome 28. Deutéronome 28, 43 L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, Et toi? Tu descendras toujours plus bas. 44 Il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête. Et tu seras la queue. 45 Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Deutéronome 28, 48 Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ainsi, si nous voyons cette pléthore désordonnée d'immigrés en Europe et dans les nations occidentales, c'est parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, et n'ont pas fait attention à sa voix, son prophète. Remarquez qu'ils n'inondent pas les pays islamiques ni les pays d'Afrique, ni les pays de l'Amérique du Sud, qui n'ont jamais connu la parole de Dieu, parce qu'ils ont été établis par l'Église catholique qui a substitué sa multiplicité de dieux et de saints à leurs dieux païens. Mais la malédiction Esther sur ceux qui ont entendu mais qui n'ont pas reconnu, et qui n'ont pas agi sur base de ce qu'ils ont entendu. La malédiction Esther sur ceux qui ont rejeté la voix de Dieu. Et donc ce n'Esther pas, parce que l'élite a ce plan stratégique comme s'ils avaient le pouvoir, parce que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Non, ils n'ont pas de vrai pouvoir, pas de vraie autorité, mais ce qu'ils ont, c'est Esther la malédiction de Dieu sur eux, et ils sont trop aveugles dans leur tradition pour comprendre ce qui se passe, tout comme les pharisiens étaient trop aveugles pour comprendre ce que Jésus disait en leur jour. Jean 9h40-41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» 41 Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. 7 Acts chapitre 9 page 339-347-3 L'attitude de cet âge si Esther exactement la même qu'à cette époque-là. On a tout. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de l'Écriture peut-il s'opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui se contredisent, ou disent le contraire l'une de l'autre? Non. Cela ne se peut pas. Et pourtant, combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1% d'entre eux, pour autant que je sache, ont appris que toutes les Écritures sont données par Dieu, et que toutes sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Si toutes les Écritures sont données ainsi, alors chaque verset s'imbriquera parfaitement dans l'ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à l'élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux qui n'y croient pas écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont dans la parole, et on n'y peut rien y changer. Mais les ennemis ne veulent pas prendre le temps d'apprendre ces choses et de concilier la vérité de ces doctrines avec d'autres vérités qui semblent s'y opposer. Au lieu de cela, ils se bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il fera et dira. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison, Et dans leur aveuglement, ils perdront tout. Nous pouvons voir la même chose juste là parmi les gens du message aujourd'hui. Vous leur montrez la présence de Parousia, ce qui estère l'apparition avant la venue, et écouteront-ils? Non. Et alors Dieu resserre le nombre de ceux qui sont vraiment ouverts pour apprendre. Alors vous leur montrez la différence entre le Père et le Fils et écouteront-ils? Non. Alors Dieu réduit encore plus le nombre de ceux qui sont ouverts à sa parole. Vous leur montrez l'adoption des fils et Jean 14h12 et écouteront-ils? Non. Alors Dieu réduit encore plus le nombre des personnes qui sont disposées à faire attention à la voix du Seigneur Dieu. Alors que reste-t-il? Je n'ai sais pas encore ce que Dieu révélera que les autres rejetteront, mais il continuera à réduire, et à réduire et à réduire jusqu'à qu'il y aura si peu de gens qui croiront vraiment et feront attention à la voix du Seigneur Dieu, qu'il y aura juste une poignée de gens qui seront réellement semblables à son image et iront dans l'enlèvement. J'en suis convaincu. Alors restez humbles et restez ouverts à la conduite de la colonne de feu, car il conduit encore, et beaucoup de gens en Afrique ont eu le privilège de le voir au-dessus de l'église à Mbanzangungu. Mais n'oubliez jamais, bien que 2 millions de personnes ont réellement vu la colonne de feu lors de l'exode de Moïse, mais combien ont continué de croire jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre promise? 348-1. Or, Dieu dit qu'ils sont non seulement aveugles, mais aussi nus. Je n'ai mis peu rien imaginer de plus tragique qu'un homme qui serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n'y a qu'une explication à cela, il a perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses facultés. L'amnésie spirituelle s'est installée en lui. Qu'est-ce que cela peut encore signifier? Serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l'Église de ce dernier jour? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel qu'il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28? Comme ils n'ont se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Il semble bien que ce soit quelque chose de la sorte. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils ne le savent pas. Ils sont déjà séduits. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les élus Néhémie peuvent pas être séduits, mais il est évident que ces personnes-là sont séduites. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la protection de Dieu, et qui ont cherché à parvenir au salut par leurs propres moyens, en construisant leur propre tour de Babel par l'organisation. Oh! Comme ils se trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces organisations les ont tout simplement menés dans le camp de l'Antichrist, dans le champ de l'ivraie, prêt à être lié et brûlé. Ce sont vraiment des objets de pitié. Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, suppliez-les, ils continueront quand même à foncer, tête baissée, vers la destruction. Ils sont comme des tisons qui s'opposent farouchement à ce qu'on les retire du feu. Oui, ils sont vraiment misérables. Et pourtant, ils n'aimaient le savent pas. Endurcis et au-delà de tout espoir, ils se glorifient dans ce qui fait en réalité leur honte. Ils défient la parole. Et s'espère pourtant par elle qu'un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé dans son terrible réquisitoire. Pour finir, laissez-moi relire ce que frère Branham a dit dans notre texte de ce soir, qui est tercé Melchizedek. 65-0-21-E51. Vous vous souvenez? Comme nous avons lu dans l'Écriture, cela n'est mis dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, Il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même est souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondissent sur les choses, frappent sur les choses, n'ennemis sachant pas ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Jacques 2, 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Éphésiens 1, 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans sa présence. Prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, novembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.